Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Littérature sans frontières, une terre, une auteure.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Destination, la République démocratique du Congo.
Elle s'appelle Natacha, Sarah, Passy, Sylvie, Gisèle, Mounia, Yvette, Sifa, Massika et Tatiana, notre invitée. Quelques prénoms de femmes parmi des milliers qui ont été violées, mutilées, humiliées, traumatisées. Des Congolaises qui, depuis 1996, subissent la violence inouïe, la barbarie, la cruauté des hommes. Des rebelles, insurgés, militaires, policiers, voleurs, toujours impunis depuis 25 ans. Bonjour Tatiana Mukanire Bandalia.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice nationale du mouvement des survivantes des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Et vous êtes l'auteur d'un livre choc qui vient de paraître aux éditions des Femmes sous le titre « Au-delà de nos larmes », préfacé par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Un témoignage au nom de toutes celles et ceux aussi qui ont subi des atrocités dans leur chair, dans leur corps, comme vous, en 2004. Et depuis, vous vous battez aux côtés des survivantes, non seulement pour guérir, mais pour dire ce que vous avez toutes enduré, traversé. Est-ce que ce livre, c'est aussi pour faire entendre au-delà des frontières la voix des Congolaises, la voix des femmes violées?
En fait, ces livres, c'est beaucoup pour nous. C'est un devoir de mémoire d'abord qu'il faudrait que les générations à venir puissent comprendre la douleur que nous on a vécue pendant des années. Parce que beaucoup de survivantes dans mon pays sont en train de disparaître, sont en train de mourir. Et c'est important qu'il y ait quelqu'un qui écrive, quelqu'un qui parle à leur nom. C'est d'abord ça. Mais en même temps, pour moi, ces livres, c'est pas vraiment un livre, c'est une thérapie pour moi. C'est le fait de ressortir cette douleur qui est en moi. Parce que je ne saurais pas parler au nom de toutes ces personnes. Je ne saurais pas leur donner plus de force si moi-même je n'ai pas de force. C'était important pour moi d'écrire ces livres au nom de toutes ces personnes. Vous comprendrez que je ne parle pas beaucoup de moi. Parce que à un moment donné, je me dis, j'ai vécu des choses, mais il y en a qui ont vécu pire que moi. Et là, je dois être là pour les soutenir, je dois être là pour les aider à se relever, comme l'a fait le docteur Mukwege pour moi. Et c'est important que je sois cette voix. Je suis coordinatrice nationale du mouvement national des survivantes de violences sexuelles dans ces pays. Ça fait 3 ans que nous avons créé ces réseaux pour porter haut et fort la voix des survivantes. Parce que la majorité des survivantes est analphabète et en même temps, on n'a pas l'occasion de parler. Personne ne nous donne le temps de parler. Et si on peut avoir le temps de parler, comme l'a fait l'édition de Femmes qui nous a aidés à parler directement dans ces livres, c'est l'occasion pour nous de sensibiliser, de remettre à la raison toutes ces personnes pour qu'ils comprennent les réalités de ce que nous vivons au quotidien.
Donc c'est un livre collectif. Vous êtes toutes ces femmes, vous êtes porte-voix de toutes ces femmes. Et c'est un livre pour briser le tabou d'avoir été violée, le secret dans lequel s'enferment les victimes, et puis le silence aussi de la communauté internationale depuis bientôt 3 décennies. C'est là où la littérature devient puissante, puisqu'elle fait résonner ce que vous avez enduré.
En fait, cette littérature fait ressortir ce que moi j'en dirais, ce que 2 millions de femmes ont enduré, 2 milliers de familles dans mon pays ont enduré, qui ont vu le leur mourir, qui ont assisté au spectacle de viol de leur maman, de leurs frères, de leurs enfants. Les gens continuent de mourir. Les viols continuent d'être perpétrés. Et en ce moment que je parle, beaucoup de femmes en RDC sont en train d'être violées dans ce pays parce que chaque seconde, il y a 2 nouvelles victimes. Et nous, on n'allait pas se taire, on n'allait pas continuer à accepter qu'il y ait 2 nouvelles victimes comme nous. Sinon, on va continuer à être un pays des traumatisés. Et ce livre, c'est pour amener les gens à se réveiller. que la communauté internationale qui continue à fermer les yeux sur tout ce qui s'est passé au Congo, tout ce qui se passe au Congo, se réveille à la fin. Il faut que les gens puissent réveiller l'humain qu'il y a en eux, que cet humain qu'on a vraiment piétiné se réveille en nous pour que les Congolais puissent retrouver son honneur. Parce que pour nous, ce n'est pas juste un livre, c'est vouloir retrouver notre honneur qui a été vraiment piétiné et l'humiliation que nous avons vécue. Nous voudrions qu'un jour, on puisse nous voir comme des personnes normales, oui, et aller de l'avant.
Le cauchemar commence en 1996, dites-vous, quand la RDC s'appelait encore le Zaïre et que la guerre qui a éclaté dans le pays voisin, le Rwanda, 2 ans plus tôt, commence à se propager. Et là, c'est la déferlante de barbarie avec le viol qui devient arme de guerre systématique. Mais après la libération, ça a continué. Ça continue encore. Qui sont ces violeurs ? Tatiana Mukanire Bandalir, et qui les laisse continuer de faire tout ça?
Les violeurs, c'est beaucoup de personnes. Les violeurs, c'est soit l'armée ougandaise qui arrive à violer de gens dans mon pays avec les ADF et autres. Il y a le M23, il y a des milices, il y a l'armée congolaise, il y a la police, il y a l'armée rwandaise. En fait, on arrive à mélanger beaucoup l'armée angolaise et tout. Le Congo, en fait, il est détruit de partout. Mais en même temps, le violeur, c'est pas seulement cette personne qui a violé cette femme. C'est toutes ces personnes qui regardent sans rien faire. C'est cette communauté internationale qui regarde sans rien faire. C'est nos politiques qui contribuent à la destruction de notre peuple. Tout ça, ce sont ces violeurs-là. En fait, à un moment donné, on dirait que le viol a été un héritage dans mon pays parce que un jeune garçon qui, depuis qu'il est né, ne connaît que la guerre, ne connaît que la destruction. Il va arriver à violer sa propre mère. Et tout ça, c'est les conséquences de ces guerres. Parce que ces enfants, issus de ces viols, ont été maltraités, ils ont été rejetés. Et à la fin, c'est une vengeance pour eux. On les enrôle dans des milices, dans des... En fait, ils arrivent à faire des choses qu'eux-mêmes, à un moment donné, ils ne savent plus s'ils rêvent ou s'ils existent toujours, s'ils sont humains.
C'est un cycle infernal. Et effectivement, ce sont entre autres les enfants soldats dont vous parlez, qui ont été enrôlés il y a 20 ans et qui aujourd'hui sont adultes et continuent de perpétuer soit ce dont ils ont été témoins, soit ce qu'on leur a appris à faire quand ils étaient enfants. Donc il y a un cycle à briser, n'est-ce pas ?
Oui.
Sachant que personne n'est épargné. C'est ça qui est terrifiant. C'est ce que vous écrivez, page 62. Certaines personnes pensent que le viol ne concerne qu'une catégorie de personnes. Mais ça ne choisit pas que l'on soit belle ou non, mineure, majeure, intellectuelle, riche ou pauvre. C'est seulement que l'on a été au mauvais endroit, au mauvais moment.
Oui, malheureusement.
Et vous aussi, un jour, vous avez été au mauvais endroit, au mauvais moment, n'est-ce
oui.
pas? C'était en 2004, vous aviez quel âge?
J'avais 19 ans à l'époque, je pense. Et j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que je ne quittais que l'université pour aller me trouver un endroit plus sécurisé. Et je suis tombée dans ces traumatismes, au fait, qui n'a pas de nom. Et beaucoup de gens se disaient au tout début que c'était juste les femmes qui n'étaient pas instruites qui tombaient dans les violences sexuelles. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était partout. Et au tout début, ça a commencé par l'Est du pays, mais aujourd'hui, tout le pays est en train d'être englouti par ces violations. Et Chaque jour, quand je me réveille, je me dis, est-ce que les politiques congolais, ils s'imaginent combien de fois nous nous souffrons? Parce que ça, ce n'est jamais arrivé dans leur propre famille, qu'ils pensent que c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de facile à porter. Imaginez-vous un homme, avec tout ce qu'on a comme coutume, qu'on utilise comme matelas pour violer sa propre femme. C'est une destruction qui va au-delà de tout. Et ça, c'est casser les liens sociaux, c'est casser l'humanité qu'il y a dans toutes ces personnes. À tout prix, ils voudront un jour se venger contre quelqu'un. Et ça, ça devient un cercle infernal où tout le monde a besoin de faire du mal à tout le monde. Pourtant, le Congolais n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un de bien. Mais la guerre est venue détruire. Et malheureusement, derrière tout ça, il n'y a pas vraiment de vérité qui est dit. On ne sait pas d'où ça vient et pourquoi.
Tous ces exemples que vous relatez dans votre livre, Tatiana Mokanire Bandalir, c'est à la fois terrible, mais c'est tellement nécessaire de raconter les choses, de dire les choses. Et en même temps, il faut reconnaître que beaucoup de femmes se taisent. Elles n'osent pas dire leur souffrance physique, psychologique et sociale, en effet. Qu'est-ce qui vous a donné la force de vous rendre à l'hôpital Panzi que le docteur Mukwege a fondé à Bukavu en 1999?
En fait, ce qui m'a amené à aller voir le docteur Mukwege, c'était d'abord le soutien de ma famille qui était là pour m'aider à aller voir le médecin après tout ce que j'ai eu comme complication après le viol. Et sincèrement, il a été là. Je détestais les hommes pendant plusieurs années. Et il m'a montré à quel point il y avait des hommes bien encore sur cette terre qui pouvaient aider sans pour autant rien recevoir en retour, qui avaient cet amour du prochain. Et ça m'a donné le courage de continuer et de revivre. Après, c'était pas facile pour moi de briser le silence. Si je passais plusieurs années, je suis passée par beaucoup de choses. Et je rencontrais quelqu'un, un homme qui a vraiment été là pour moi, avec qui je suis mariée aujourd'hui, qui m'a soutenue en fait. Et avec ça, il a été là pour moi pour me dire « tu peux aider d'autres femmes ». Et c'est dans ces cas que le docteur m'a dit « ok, est-ce que tu peux devenir l'espoir de toutes ces personnes ?» C'est ce qui m'encourage que quand je vais dans un village et que une femme accouche, elle s'est dit, je vais donner le nom de Tatiana à mon enfant. Ça m'encourage, ça me dit, c'est que je peux être quelqu'un de valeureux devant cette personne. Je peux être un espoir pour cette personne. Et c'est qui me donne le courage de parler à leur nom parce que elles ont confiance en moi et qu'elles se disent, comme on a vécu la même chose avec elle, je peux lui parler, il peut porter ma voix et c'est dans ces cas que je suis coordinatrice dans un réseau de survivantes parce que en même temps, je porte la voix de ces personnes. Je ne vois plus ma voix, au fait, parce que ma voix ne compte pas parmi de milliers de voix. Mais c'est important que moi, je porte ce fardeau parce que beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance d'avoir une famille qui les encourage. Beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme j'ai eu la chance d'y aller. Et c'est important qu'à leur place, je puisse parler.
Oui, parce qu'il faut dire à quel point c'est une peine multiple que vous endurez quand on est violée. Bien sûr, l'acte en lui-même, ensuite la honte, voire le rejet de sa propre famille, le rejet du village, sans oublier le rejet des enfants qui sont nés de ces viols. Vous êtes là, vous, Tatiana, pour affirmer que ce n'est pas une malédiction et que ce n'est pas un héritage forcé.
En fait, je suis là pour dire que il y a toujours un choix. Le violeur n'est pas obligé de faire ça. Il a fait un choix de le faire. Et nous, en tant que ses victimes, nous avons le choix de nous relever. Parce que j'ai toujours dit que la meilleure vengeance, c'est se relever et se mettre debout. C'est la meilleure de vengeance. En fait, parce que quand le violeur t'a détruit, en fait, il s'est dit, je donne l'exemple, je veux partir des exemples. Une dame qui a été ligotée pendant 2 mois sur un arbre et qui a été tout le jour violée par plus de 6 hommes. Tout le jour de sa vie. Elle est laissée morte pour morte sur cet arbre. En fait, le violeur, ils savent que celle-là, elle est morte. Mais au fond de ces désespoirs-là, cette femme s'est dit, je veux me réveiller, j'ai des enfants. Pour ces enfants, je veux m'élever, je vais continuer. Et là, ce fardeau de la honte, mais en même temps, elle veut changer l'humanité. Elle veut donner plus d'espoir à ses enfants. Elle veut sécuriser ses enfants. Parce que si elle se réveille là-bas, c'est juste pour que cela n'arrive pas à ses enfants. Pour que soit le bouclier pour ses enfants. Et ça, c'est ça la mère, en fait. En même temps, les enfants que nous avons sont le conséquence à vie de ces violences. On a eu ces enfants et quand tu le vois, ça te rappelle, en fait, tout ce que tu as pu avoir comme humiliation. Mais en même temps, ce sont les enfants. Beaucoup d'entre nous ne pourront jamais avoir d'enfants après leur viol. Beaucoup d'entre nous ont pu avorter parce qu'elles n'en pouvaient plus, clandestinement encore. Et elles se disent toujours, tous ces enfants du monde sont nos enfants. Et pour eux, on va se battre. Et je me dis que la personne la plus humaine de ces mondes, c'est la femme. Parce qu'elle a un pouvoir puissant et elle s'est pardonnée, elle s'est acceptée. Elle sait aider tout le monde parce que nous sommes les mamans. En même temps, nous sommes les mères de ces bourreaux. Nous sommes les femmes de ces bourreaux. Nous sommes l'humanité, en fait. Et c'est important que nous nous battions pour eux aussi, pour qu'ils changent, pour qu'ils payent un jour de leurs actes parce qu'on apprend en payant par la justice.
Bien sûr qu'il faut qu'ils payent. Où on en est aujourd'hui de la justice ? Avec la plupart des victimes qui souvent n'osent pas porter plainte. Donc comment faire pour avoir justice, se rendre justice?
En fait, il y a 2 cas de justice dans ces cas que moi je propose toujours. C'est les cas d'une justice transitionnelle où on peut avoir des réparations administratives pour ces personnes qui, après 25 ans, après 15 ans, je n'ai pas de preuves pour aller en justice. Quand une femme a été violée au fin fond de la RDC et qu'elle doit faire 1 mois à pied pour aller à l'hôpital, comment elle aura de preuves? Elle peut soit mourir sur cette route, soit être encore violée de nouveau. Et après 25 ans, on n'a pas de preuves. Mais il faut que les vérités soient dites. Il faut que l'on reconnaisse nos bourreaux. Et malheureusement, ce qui nous choque est à tout moment, on va vous dire, ce sont des personnes non autrement identifiées. Mais nous, en tant que victimes, en tant que survivantes, nous connaissons nos bourreaux. Nous connaissons d'où ils viennent. En fait, à un moment donné, nous, en tant que victimes, on s'est dit, les gens veulent brouiller les informations, ils veulent nous perturber, parce que, en même temps, on a été traumatisés par le viol. Mais le fait de ne pas avoir une bonne justice nous traumatise encore plus. Et la femme qui est partie en justice et qui n'a pas d'argent pour payer son avocat, comment ça se fait? Il y a des organisations qui sont en train d'aider les femmes à aller en justice. Mais vont-ils atteindre 100 millions de femmes, des hommes et des enfants qui ont été violés? Je pense qu'il en va du devoir de l'État de mettre tout en place. Comme le dit le docteur Mukwege, il faut mettre un tribunal pénal international pour le Congo. Et récemment, le gouvernement est en train de bouger pour mettre la justice transitionnelle et les fonds nationaux de réparation pour les victimes. Mais c'est pas assez. Il faut la vérité. Il faut une garantie des non-répétitions parce que les personnes qui sont aujourd'hui à la manette, ils ont trempé ça dans toutes ces atrocités. Et comment La question que nous, on se pose est qu'on peut tout mettre en œuvre. Mais comment ton bourreau va-t-il être en même temps ton juge ou la personne qui te donne des réparations? Ça, c'est de l'humiliation pour les survivantes. Ça, c'est de l'humiliation pour les victimes. Autant mieux ne pas avoir de réparation que d'avoir des réparations d'humiliation ou de honte.
Donc, il y a encore un long chemin à parcourir. D'abord, pour que les femmes puissent porter plainte. Et ensuite, aller en justice et que les bourreaux soient jugés par, effectivement, un tribunal impartial.
En fait, il y a des avancées. Bien sûr qu'il y en a qui sont partis en justice. Par exemple, il y a le cas d'une communauté qui a été violée par les gardes présidentiels. C'est un village qu'on appelle Minova, qui est à côté de Goma. En fait, il y a eu un procès il y a plus de 10 ans. Les femmes n'ont jamais obtenu réparation. C'est une organisation, le Global Savava Fund, avec le soutien de Dr Mukwege, qui est venu donner des réparations à ces femmes. Vous comprenez que même si elles vont en justice, elles ont peur en même temps des représailles. Parce que ce qui est bizarre est que quand il y a un viol de masse dans ces sens, ce sont les soldats de rang qui sont mis en prison. Mais qu'en est-il des commanditaires de ces atrocités? Ce sont eux les hauts gradés de l'armée aujourd'hui. Ce sont eux le politique aujourd'hui. Et pour nous, on a besoin que, avant de donner de poste à ces personnes, on puisse voir dans quoi ils sont passés. S'ils sont passés par des rébellions, s'ils sont passés par des milices, on tant mieux ne pas leur donner des places parce qu'ils vont continuer à détruire cette communauté.
Donc vous ne pouvez compter que sur vous-même, vous les femmes.
En fait, nous comptons sur nous-mêmes, mais en même temps, nous comptons sur la bonne volonté, la bonne foi de la population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, certaines familles sont en train de comprendre. Certains jeunes sont en train de comprendre. Et si toute la population se met ensemble pour se sécuriser soi-même, pour se prendre en charge, c'est très important. Aujourd'hui, on a un président, il montre sa bonne volonté. Mais pour moi, la bonne volonté ne suffit pas après 15 ans, après 25 ans. Il faut vraiment des actes concrets. Parce que s'il n'y a pas d'actes concrets, c'est un pays de traumatisés, quoi. On continue à vivre des scènes de violence. Et toutes ces violences, ces mutineries, ces insurrections, sont accompagnées par de violences sexuelles. Parce que tous ces militaires, quand ils viennent au Congo, après avoir tué, ils violent les femmes. Ils violent des hommes. Parce que ce n'est pas seulement des femmes qui sont violées dans mon pays. Il y a certains hommes. Il y a des enfants de moins de 6 mois. C'est une atrocité qui n'a pas son nom, en fait.
Je vous entends, Tatiana Mokanire Bandalier, avec votre voix si douce, avec votre sourire. Je suis tellement admirative de votre calme. D'ailleurs, vous avez dans le livre, et c'est très touchant, écrit une longue lettre à votre violeur. Non pas pour lui pardonner, mais pour le mettre en alerte, pour lui dire « je sais ce que tu as fait ».
En fait, j'ai écrit la lettre à mon violeur. C'était ma première fois pour moi de sortir ma douleur. Je vécus pendant longtemps en train de me cacher derrière ma douleur. Derrière peut-être la boisson, derrière le... Je suis passée par beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, si je dois aider d'autres personnes, il faudrait que je m'aide moi-même. Et en 2016, j'ai écrit une lettre à mon bourreau. Je sais que mes bourreaux n'étaient pas instruits.
Il ne l'a pas lu, en effet.
Et ils ne pourront jamais le lire, je suis sûre. Mais c'était une thérapie pour moi-même, d'abord. Pour ressortir cette colère, cette douleur. Et en même temps, ça pouvait ramener à la raison d'autres personnes qui, par mauvaise foi, pourront penser que violer une femme, c'est pas si grave que ça. Et pour moi, je me suis dit que cette lettre, en la publiant, parce que je l'ai publiée sur des réseaux, ça pourrait aider d'autres personnes à comprendre la douleur de violence, la douleur du viol. C'est une humiliation qui n'a pas de nom. Et dans tous les pays où il y a des guerres, dans tous les pays où il y a, même là où il n'y a pas la guerre, il y a en France, il y a des gens qui se font violer aussi. En fait, cette lettre-là, pour moi, c'était quelque part ramené à la raison de gens qui peuvent par chance la lire et qui pourront avoir le courage.
Quelle est votre priorité aujourd'hui, Tatiana Mukanire-Bandalir?
En fait, la priorité pour moi aujourd'hui, c'est que les gens comprennent, que deux personnes soient mobilisées. En fait, je ne dirais pas que les gens ne sont pas sensibilisés. Ils sont sensibilisés, mais certains ont un cœur dur. Ils ne voudraient pas changer parce qu'ils ont des intérêts derrière tout ça. C'est important que ces livres, c'est un petit livre bien sûr, mais c'est beaucoup pour nous. C'est vraiment une partie de nous en fait. On a essayé d'effacer le peuple. Et le peuple congolais est en train d'être effacé. C'est tout le jour que le Congolais est en train de mourir. Pas seulement par l'arme, mais par le viol aussi. Et malheureusement, la communauté internationale ferme les yeux.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
Pour nous, c'est juste d'abord se rallier à cette lutte. C'est pas une lutte pour Tatiana, c'est pas une lutte pour Sifa, c'est pas une lutte pour mon mari ou pour ma famille. C'est une lutte pour l'humanité. Parce qu'aucune mère, aucun parent ne voudrait que cela arrive à son enfant. Et c'est important qu'on prenne conscience aujourd'hui. C'est pas question d'argent en fait. Le Congo, il a beaucoup de minerais et tout. Et je pense que c'est ça le problème. Mais en même temps, il faut savoir que si nous continuons à détruire l'humain qu'il y a en nous, si nous ne retrouvons pas la raison et que nous essayons de vivre comme des personnes normales, nous allons vivre pire que des animaux. Parce que quand vous arrivez dans une famille où on oblige un père à violer sa propre fille devant sa femme, c'est une destruction au-dessus de tout. En fait, c'est mieux que le tuer, en fait, parce que c'est difficile pour eux de revivre en famille quand tout ça s'est passé. Et moi, je pense que on a utilisé cette arme pour tous nous détruire. Et en tant que Congolaise, en tant que quelqu'un qui aime son pays, je sais que nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer. Même après 2 années, on aura une solution.
Je l'espère tellement de tout cœur et je vous entends et j'ai envie de finir notre entretien sur ce message d'espoir. Que bien sûr, ça va finir. Et nous, modestement, on vous lit, on partage votre parole et on pense à vous tous les jours, très fort. Et on vous remercie infiniment d'avoir eu le courage d'écrire ces atrocités parce qu'elles doivent être dites, elles doivent être connues dans le monde entier. Et c'est aussi le pouvoir de la littérature et de l'édition. Donc je rappelle le titre de votre témoignage, Au-delà de nos larmes, préfacé par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, je le disais. Un livre de Tatiana Mukanire-Bandalir, publié aux éditions des Femmes. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.